Évangile selon Marc, chapitre 16. Autour du sépulcre, versets 1 à 8.
Lecture de la parole. Et le sabbat étant passé, Marie de Magdala et Marie, la mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates pour venir l'embaumer. Et de fort grand matin, le premier jour de la semaine, elles viennent au sépulcre comme le soleil se levait. Et elles disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre de devant la porte du sépulcre ?» Et ayant regardé, elles voient que la pierre était roulée, car elle était fort grande. Et étant entrées dans le sépulcre, elles virent un jeune homme assis du côté droit, vêtu d'une robe blanche, et elles s'épouvantèrent. Et lui leur dit, « Ne vous épouvantez point. Vous cherchez Jésus le Nazarénien, le crucifié. Il est ressuscité, il n'est pas ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez, dites à ses disciples et à Pierre, il s'en va devant vous en Galilée. Là, vous le verrez comme il vous l'a dit. » Et sortant, elles s'enfuirent du sépulcre. Et le tremblement et le trouble les avaient saisis, et elles ne dirent rien à personne, car elles avaient peur.
Lecture de l'étude. Le sabbat était passé, un grand jour pour les Juifs cette année-là, car il avait été précédé de la Pâque. Dès lors, ni le sabbat, ni la Pâque n'avaient de valeur. Le véritable agneau de Dieu avait définitivement accompli la Pâque, et le sabbat, symbole du repos dans lequel Dieu voulait introduire l'homme, n'était plus possible sur le pied de la loi. Christ, venu sous la loi après avoir subi la mort, avait passé ce sabbat dans le sépulcre. Il était, comme dit Paul, la fin de la loi. Romains 10, verset 4.
Car Christ est la fin de la loi pour justice à tout croyant.
Tout le système légal avait été, pour ainsi dire, enseveli avec Christ. Une nouvelle économie allait commencer avec la résurrection du Seigneur Jésus. De fort grand matin, le premier jour de la semaine, le premier dimanche qui ait eu lieu, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et Salomé, vinrent au sépulcre pour y apporter les aromates qu'elles avaient achetés dans l'intention d'embaumer le corps de celui qui leur était si cher. N'étant que des femmes, elles se demandaient comment elles pousseraient de côté la pierre, fort grande, qui fermait l'entrée du sépulcre. Mais, à leur arrivée, elles constatèrent qu'on l'avait enlevée. Elles entrèrent dans le sépulcre et virent un jeune homme, assis sur le côté droit, vêtu d'une robe blanche. Cet ange, à la vue duquel elles s'effrayaient, leur dit, « Ne vous épouvantez point, vous cherchez Jésus le Nazarénien, le crucifié. Il est ressuscité, il n'est pas ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez, dites à ses disciples et à Pierre, il s'en va devant vous en Galilée, là vous le verrez, comme il vous l'a dit. » Et sortant, elles s'enfuirent du sépulcre, et le tremblement et le trouble les avaient saisis, et elles ne dirent rien à personne, car elles avaient peur, versets 6 à 8. Marc ne mentionne que la venue des femmes au sépulcre, leur rencontre avec l'ange, et la mission dont elles doivent s'acquitter auprès des disciples pour leur rappeler ce que Jésus leur avait dit au chapitre 14, verset 28. Matthieu donne à ce sujet plus de détails que nous avons considérés en lisant cet évangile. Cependant, nous avons dans ce récit un détail qui ne se trouve pas ailleurs. C'est la mention de Pierre par l'ange, dites aux disciples et à Pierre. En cela, l'amour du Seigneur pour son pauvre disciple se montre d'une manière touchante. Pierre devait être plongé dans une douleur très compréhensible au souvenir de son reniement, comme dernier acte vis-à-vis de son Seigneur et Maître, et du regard qu'il rencontra dans la cour du souverain sacrificateur. Aussi la mention de son nom dans le message adressé aux disciples dut le réconforter et lui faire comprendre que Jésus ne l'avait pas renié. Si le message eût été adressé simplement aux disciples, sans mentionner Pierre, ce dernier aurait pu dire « Je ne dois plus me compter au nombre des disciples, puisque j'ai renié mon maître. » Mais le Seigneur s'occupait spécialement de son disciple, afin de le relever, de le restaurer en vue du service qu'il voulait lui confier. Nous voyons de quelle manière il le fit en Jean 21, versets 15 à 20.
« Lors donc qu'ils eurent dîné, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne font ceux-ci ? » Il lui dit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Il lui dit, « Paix mes agneaux. » Il lui dit encore une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? » Il lui dit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Il lui dit, « Sois berger de mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? » Pierre fut attristé de ce qu'il lui disait pour la troisième fois, « M'aimes-tu ? » Et il lui dit, « Seigneur, tu connais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix mes brebis. » en vérité, je te dis, quand tu étais jeune, tu te saignais, et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras devenu vieux, tu étendras les mains, et un autre te ceindra, et te conduira où tu ne veux pas. Or, il dit cela pour indiquer de quelle mort il glorifierait Dieu. Et quand il lui dit cela, il lui dit, « Suis-moi. » Pierre, se retournant, voit suivre le disciple que Jésus aimait, qui lui aussi, durant le souper, s'était penché sur sa poitrine et avait dit, « Seigneur, lequel est celui qui te livrera ?»
L'apôtre Paul cite Pierre comme un des témoins de la résurrection du Seigneur, et il a été vu de Céphas, 1 Corinthiens 15, verset 5. Rencontre de Jésus et des siens, versets 9 à 20.
Lecture de la parole. Et étant ressuscité le matin, le premier jour de la semaine, il apparut premièrement à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle, s'en allant, l'annonça à ceux qui avaient été avec lui, qui étaient dans le deuil et pleuraient. Et ceux-ci, apprenant qu'il était vivant, et qu'il avait été vu d'elle, ne le crurent point. Et après ces choses, il apparut sous une autre forme à deux d'entre eux qui étaient en chemin, allant au champ. Et ceux-ci s'en allèrent et l'annoncèrent aux autres, mais ils ne crurent pas cela non plus. Plus tard, il apparut aux 11 comme ils étaient à table, et leur reprocha leur incrédulité et leur dureté de cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressusciter. Et il leur dit, « Allez dans tout le monde et prêchez l'Évangile à toute la création. Celui qui aura cru et qui aura été baptisé sera sauvé, et celui qui n'aura pas cru sera condamné. Et ce sont ici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils prendront des serpents. Et quand ils auront bu quelque chose de mortel, cela ne leur nuira point. Ils imposeront les mains aux infirmes, et ceux-ci se porteront bien. » Le Seigneur donc, après leur avoir parlé, fut élevé en haut dans le ciel, et s'assit à la droite de Dieu. Et eux, étant partis, prêchèrent partout, le Seigneur coopérant avec eux, et confirmant la parole par les signes qui l'accompagnaient.
Lecture de l'étude. Dans le reste du chapitre, Jésus se fait connaître aux siens. Il apparaît premièrement à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. C'est elle que nous trouvons pleurant au sépulcre en Jean 20, versets 1 à 18.
Et le premier jour de la semaine, Marie de Magdala vint le matin au sépulcre, comme il faisait encore nuit, et elle voit la pierre ôtée du sépulcre. Elle court donc et vient vers Simon Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait, et elle leur dit, « On a enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où on l'a mis. » Pierre donc sortit et l'autre disciple, et ils s'en allèrent au sépulcre, et ils couraient les deux ensemble. Et l'autre disciple courut en avant plus vite que Pierre, et arriva le premier au sépulcre. Et s'étant baissé, il voit les linges à terre. Cependant, il n'entra pas. Simon Pierre donc, qui le suivait, arriva, et il entra dans le sépulcre. Et il voit les linges à terre, et le suaire qui avait été sur sa tête, lequel n'était pas avec les linges, et plié en un lieu à part. Alors donc l'autre disciple aussi, qui était arrivé le premier au sépulcre, entra, et il vit et crut, car il ne connaissait pas encore l'Écriture qu'il devait ressusciter d'entre les morts. Les disciples s'en retournèrent donc chez eux. Mais Marie se tenait près du sépulcre dehors et pleurait. Comme elle pleurait donc, elle se baissa dans le sépulcre. Et elle voit deux anges vêtus de blanc, assis, un à la tête et un aux pieds, là où le corps de Jésus avait été couché. Et ils lui disent, « Femme, pourquoi pleures-tu ? » Elle leur dit, « Parce qu'on a enlevé mon Seigneur, et je ne sais où on l'a mis. » Ayant dit cela, elle se tourna en arrière, et elle voit Jésus qui était là, et elle ne savait pas que ce fut Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? » Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, si toi tu l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et moi je l'ôterai. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle, s'étant retournée, lui dit en hébreu, « Rabboni », ce qui veut dire « maître ». Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va vers mes frères et dis-leur, « Je monte vers mon Père et votre Père, et vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala vient rapporter aux disciples qu'elle a vu le Seigneur et qu'il lui a dit ces choses.
Objet d'une délivrance si merveilleuse, son cœur éprouvait une douleur profonde à la pensée de ne pas revoir son Seigneur. Lui le savait. Occupé d'elle comme il l'était de Pierre, il a répondu à son ardente affection en se manifestant à elle premièrement. Nous retrouvons Jésus ressuscité entièrement occupé des siens. Il les a en vue maintenant que son service dans le monde est terminé, et c'est toujours ce qu'il fait depuis la gloire, étant toujours vivant pour intercéder pour eux. Hébreux 7, verset 25. Marie alla annoncer aux disciples, qui menaient deuil et pleuraient, que Jésus était vivant et qu'elle l'avait vu, mais ils ne la crurent pas. Quoiqu'il leur eût si souvent parlé de sa résurrection, ils n'y avaient pas ajouté foi. Chapitre 8, verset 31.
Et il commença à les enseigner. Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, et qu'il soit rejeté des anciens et des principaux sacrificateurs et des scribes, et qu'il soit mis à mort, et qu'il ressuscite après 3 jours.
Chapitre 9, verset 9 et 31.
Et comme ils descendaient de la montagne, il leur enjoignit de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu, sinon lorsque le Fils de l'homme serait ressuscité d'entre les morts. Verset 31. Car il enseignait ses disciples et leur disait, « Le Fils de l'homme est livré entre les mains des hommes, et ils le feront mourir, et ayant été mis à mort, il ressuscitera le 3e jour. »
Chapitre 14, verset 28.
Mais après que je serai ressuscité, j'irai devant vous en Galilée.
Ils ne pouvaient croire en Jésus autrement qu'en un Messie vivant établissant son règne. Beaucoup de vérité dans la parole, nous demeurent obscures parce que nous voulons les accorder avec ce que nous pensons, au lieu de laisser former nos pensées par elles. Après ces choses, il apparut sous une autre forme à deux d'entre eux qui étaient en chemin, allant au champ, verset 12. Nous avons le récit de cette rencontre en Luc 24, verset 13 à 35.
Et voici, deux d'entre eux étaient ce même jour en chemin pour aller à un village dont le nom était Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient ensemble de toutes les choses qui étaient arrivées. Et il arriva, comme ils s'entretenaient et raisonnaient ensemble, que Jésus lui-même, s'étant approché, se mit à marcher avec eux. Mais leurs yeux étaient retenus de manière qu'ils ne le reconnurent pas. Et il leur dit, « Quels sont ces discours que vous tenez entre vous en marchant, et vous êtes tristes ?» Et l'un d'eux, dont le nom était Cléopas, répondant, lui dit, « Est-ce que tu séjournes tout seul dans Jérusalem, que tu ne saches pas les choses qui y sont arrivées ces jours-ci ? » Et il leur dit, « Lesquelles ?» Et ils lui dirent, « Celles touchant Jésus le Nazaréen, qui était un prophète, puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos chefs l'ont livré pour être condamné à mort et l'ont crucifié. Or nous, nous espérions qu'il était celui qui doit délivrer Israël. Mais encore, avec tout cela, c'est aujourd'hui le troisième jour depuis que ces choses sont arrivées. Mais aussi quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, ayant été de grand matin au sépulcre, et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues disant qu'elles avaient vu aussi une vision d'ange qui disent qu'il est vivant. Et quelques-uns de ceux qui sont avec nous sont allés au sépulcre, et ont trouvé les choses ainsi que les femmes aussi avaient dit. Mais pour lui, ils ne l'ont point vu. Et lui leur dit, « Ô gens sans intelligence et lents de cœur à croire toutes les choses que les prophètes ont dites, ne fallait-il pas que le Christ souffrît ces choses et qu'il entrât dans sa gloire ? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliquait dans toutes les Écritures les choses qu'ils regardent. Et ils approchèrent du village où ils allaient. Et lui, il fit comme s'il allait plus loin. Et ils le forcèrent, disant, « Demeure avec nous, car le soir approche, et le jour a baissé. » Et il entra pour rester avec eux. Et il arriva que, comme il était à table avec eux, il prit le pain et il bénit. Et l'ayant rompu, il le leur distribua. Et leurs yeux furent ouverts, et ils le reconnurent. Mais lui devint invisible, et disparut de devant eux. Et ils dirent entre eux, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous, lorsqu'il nous parlait par le chemin, et lorsqu'il nous ouvrait les Écritures ?» Et se levant à l'heure même, ils s'en retournèrent à Jérusalem, et trouvèrent assemblés les onze et ceux qui étaient avec eux, disant, « Le Seigneur est réellement ressuscité, et il est apparu à Simon. » Et ils racontèrent les choses qui étaient arrivées en chemin, et comment ils s'étaient fait connaître à eux dans la fraction du pain.
Ils annoncèrent aux autres disciples qu'ils avaient vu le Seigneur, mais ceux-ci ne les crurent pas non plus. Plus tard, il apparut aux onze, comme ils étaient à table, et leur reprocha leur incrédulité et leur dureté de cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter, verset 14. Jésus les charge néanmoins d'annoncer l'Évangile à toute la création. Si ces pauvres disciples se montraient si peu propres à accomplir une telle mission, Jésus le savait. N'est-ce pas lui qui leur avait dit au commencement, « Je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes » chapitre 1, verset 17. Lui seul pouvait les en rendre capables, et il l'a fait. Jésus leur dit, « Celui qui aura cru et qui aura été baptisé sera sauvé, et celui qui n'aura pas cru sera condamné, verset 16. Le sujet de l'Évangile est l'œuvre que Dieu a accomplie à la croix. Le pécheur doit l'accepter en croyant que cette œuvre a été accomplie pour lui. Celui qui croit est sauvé. Il est né de nouveau. Juif ou païen, il devient un autre homme, c'est-à-dire un chrétien. Ceux que le message des apôtres avait convertis devaient démontrer publiquement par le baptême qu'ils étaient devenus chrétiens. Le baptême est un signe de la mort de Christ qui délivre du péché et du monde et qui introduit ici-bas dans la maison de Dieu. Cette maison a remplacé, comme témoignage, Israël, le peuple terrestre de Dieu. Ainsi la foi sauve et le baptême introduit dans le témoignage de Dieu sur la terre. Celui qui est baptisé professe que la mort de Christ l'a tiré de l'état ancien dans lequel il se trouvait selon la nature et qu'il fait partie de la maison de Dieu sur la terre, là où Dieu habite par son esprit. C'est en rapport avec cet état nouveau que les missionnaires donnent un nouveau nom aux païens convertis qu'ils baptisent. Ils perdent à ce moment-là même le nom qui se rattachait à leur ancien état. Le passage de la mer Rouge offre un exemple très clair de la signification du baptême. Les Israélites la traversaient, non pour que l'ange destructeur ne les atteignît point, le sang de l'agneau les en avait préservés, mais pour être délivrés de l'Égypte et de son prince, figure du monde et de Satan, son chef, et introduits, non pas en Canaan, mais dans le désert, où Dieu habiterait avec eux. Il les voulait entièrement séparés du monde. Le sang de l'agneau de la Pâque expie le péché. Le passage de la mer Rouge délivre du monde. C'est pourquoi Jésus ajoute « Celui qui n'aura pas cru sera condamné, parce que c'est la foi en l'efficacité de son sang qui sauve. » Ailleurs, nous apprenons que la maison d'un croyant est comprise dans son témoignage et doit être introduite dans la maison de Dieu ici-bas. Au commencement de la prédication de l'Évangile au milieu des Juifs, ennemis de Christ, et des gentils plongés dans les ténèbres de l'idolâtrie sous la puissance de Satan, il fallait une démonstration de la puissance divine qui accompagna la prédication de la parole et qui se manifesta en ceux qui croyaient. C'est pourquoi Jésus dit à ses disciples, « Et ce sont ici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils prendront des serpents, et quand ils auront bu quelque chose de mortel, cela ne leur nuira point. Ils imposeront les mains aux infirmes, et ceux-ci se porteront bien. » Versets 17 à 18. Tous ces signes démontraient la victoire que remportait la puissance de la grâce sur la puissance de Satan, sous laquelle gisait l'homme, le serpent ancien ayant été vaincu par Christ à la croix. Les langues nouvelles sont en rapport avec la proclamation de l'Évangile à tous les peuples, divisées en conséquences du péché commis lors de la construction de la tour de Babel. Tout dans ce passage nous parle du triomphe de la grâce. Ces signes ne se voient plus dans l'Église. Le Seigneur n'a pas dit qu'ils auraient lieu jusqu'à la fin. En Matthieu 28, verset 20, Jésus, après avoir donné ses ordres aux disciples, leur indique ce qui demeurera jusqu'à la fin, c'est lui-même. Et voici, moi je suis avec vous jusqu'à la consommation du siècle. Si les croyants n'ont plus le pouvoir de faire des miracles aujourd'hui, c'est parce que nous sommes à la fin de l'histoire de l'Église sur la terre et que ces signes étaient donnés pour l'établissement du christianisme. Ce qui caractérise maintenant les croyants fidèles, ce n'est pas la puissance, mais la faiblesse et l'obéissance à la parole de Dieu, au milieu de la chrétienté qui se réclame du nom de Christ, mais ne se soucie pas d'obéir à sa parole, tout en désirant posséder la puissance. Si nous avions le pouvoir de faire des miracles, nous nous en servirions avec orgueil. Nous croirions être quelque chose et nous négligerions les vrais intérêts du Seigneur, oubliant que ce qui l'honore, c'est l'obéissance. Après avoir parlé avec ses disciples, le Seigneur fut élevé dans le ciel et s'assit à la droite de Dieu. Le serviteur parfait, ayant terminé son œuvre, pouvait prendre la place de repos et d'honneur à la droite du Dieu dont il venait d'accomplir toute la volonté. Le récit de Marc se termine par un passage qui montre encore combien c'est le service qui caractérise cet évangile. Et eux, étant partis, prêchèrent partout, le Seigneur coopérant avec eux et confirmant la parole par les signes qui l'accompagnaient. Verset 20. Les disciples entreprirent énergiquement leur œuvre et le caractère du service du Seigneur paraît encore ici. Ils coopéraient avec eux. Puissions-nous tous, chers lecteurs, retirer de cet évangile que nous venons de parcourir ensemble, avec beaucoup de faiblesse et d'ignorance, quelque chose de son trait caractéristique, tel que nous pouvons le voir dans la personne de Jésus, qui a parfaitement servi Dieu son Père en nous laissant un modèle pour que nous le suivions. Un des principaux éléments du service, c'est le dévouement, qualité qui fait extrêmement défaut dans le siècle où nous vivons. Chacun recherche ses aises, sa propre satisfaction, son bien-être. Le dévouement ne peut s'exercer sans qu'on renonce à soi-même. L'amour seul doit en être la source, car l'amour pense toujours premièrement aux autres. Il ne cherche jamais son propre intérêt. C'est cet amour que Jésus a manifesté en quittant la gloire pour venir ici-bas, non pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie en rançon pour plusieurs, chapitre 10, verset 45. Si nous pensons à lui, sachant que c'est pour nous qu'il est venu dans ce monde, afin d'y souffrir tout ce qu'il a enduré tout le long de son chemin et sur la croix, nous comprendrons que notre activité doit l'avoir pour modèle et pour motif, en sorte que, pour lui, nous pourrons supporter quelques renoncements afin de marcher sur ses traces, le cœur rempli de son amour. L'apôtre Paul dit « L'amour du Christ nous étreint, en ce que nous avons jugé ceci, que si un est mort pour tous, tous donc sont morts, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui pour eux est mort et a été ressuscité. » 2 Corinthiens 5, versets 14 et 15. Pour agir ainsi, il faut évidemment avoir la vie de Dieu. Dans les temps sérieux auxquels nous sommes parvenus, tout nous montre la proximité de la venue du Seigneur. En conséquence, il importe que tous nous agissions en ayant devant nous cette précieuse et solennelle vérité. 1. Les croyants, afin d'honorer le Seigneur par l'obéissance à sa parole, le dévouement à son service, la séparation du monde sous quelque forme qu'il se présente à nous. 2. Ceux qui ne sont pas encore convertis, afin qu'ils viennent sans aucun retard à celui qui, dans ses tout derniers jours, tend encore les bras à chacun, disant « Venez à moi, vous tous qui vous fatiguez et qui êtes chargés, et moi je vous donnerai du repos. » Matthieu 11, verset 28. Que celui qui veut prenne gratuitement de l'eau de la vie. Apocalypse 22, verset 17. Le Seigneur termine sa parole en disant « Oui, je viens bientôt. » Puissions-nous tous répondre « Amen, viens, Seigneur Jésus. »